Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et donc, c'était une reprise de Ma petite entreprise chantée par Isabelle Boulet. On se retrouve, chers auditeurs, pour une chronique que je vais faire sur les élections qui ont eu lieu en Russie. Donc, la réélection, entre guillemets, de Vladimir Poutine, parce que oui, Vladimir Poutine a été réélu en Russie haut la main, avec un taux de participation qui serait de 87%. Mais évidemment, comme on parle de la Russie, comme on parle de Vladimir Poutine, il y a tout un contexte autour de cette élection. Un contexte dont on avait pu traiter d'ailleurs plusieurs fois durant l'émission, et que j'introduirai la discussion parce que je laisserai un petit peu de temps pour discuter de ça avec mes chroniqueurs. Il y a la mort récente du principal détracteur de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, dont on avait pu parler plusieurs fois, qui était emprisonné dans une prison dans le Grand Nord, qui avait été empoisonné par le passé, puis qui est là décédé récemment, juste avant les élections finalement de Vladimir Poutine. On s'inscrit également dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, et d'attaques de plus en plus virulentes de la part de la Russie sur l'Ukraine, où l'Ukraine est de plus en plus menacée, ainsi que son autodétermination. Bref, tout un tas de tensions, des tensions entre l'Europe et la Russie. On va parler de tout ça. Donc effectivement, Vladimir Poutine a 71 ans, qui est au pouvoir depuis déjà un quart de siècle. Il faut savoir que Poutine est au pouvoir depuis 1999. Pour la petite anecdote, il va bientôt peut-être dépasser finalement la longévité au pouvoir de Joseph Staline. Pas que je compare les deux non plus, mais voilà, les pouvoirs... Les pouvoirs autoritaires, pour faire un petit parallèle entre les différents, entre des pouvoirs autoritaires russes qui emprisonnaient leurs opposants. Et il a été donc largement réélu, bien évidemment sans surprise, hein, parce que c'est comme ce qui se passe à chaque fois où il a un vote absolu, donc à 87%, comme je le disais, d'après les résultats que nous avons eus. Il a réalisé d'ailleurs un discours public à la télévision après son élection. Il a pris la parole et il a pu déclarer que sa réélection prouve que la Russie a choisi une bonne voie. Il disait que cela permettra de consolider la société russe et que son pays sera ainsi plus fort et plus efficace. Bien évidemment, toute la campagne et tout son discours mettaient aussi en perspective la guerre russo-ukrainienne et les attaques de la Russie sur l'Ukraine. Et donc voilà, dans sa prise de parole, il justifiait finalement l'importance de voter pour lui par rapport à ce conflit-là. Il a aussi remercié donc les soldats qui se battent en Ukraine, je cite ces mots. Et il a parlé de son opposant, Alexei Navalny, et ce qui est très rare parce qu'il n'en parle presque jamais, il ne le cite jamais son nom. Et il a dit que sa mort en prison était... il a dit qu'il était mort de façon naturelle en prison. Il a même déclaré que c'était un événement triste, prononçant ainsi en public... Navalny est décédé. Oui, il est décédé. C'est toujours un événement triste que nous avons eu d'autres, et nous avons eu d'autres cas de personnes décédées en prison, a déclaré tristement Vladimir Poutine. On voit tout le cynisme, en réalité, je me permets de dire ça, mais on voit tout le cynisme de cette déclaration, en réalité. Poutine qui se dit triste de la mort d'Alexei Navalny, alors que Navalny a été empoisonné, Navalny a été emprisonné, il est mort dans une prison russe. C'est un de ses principaux et ses plus farouches opposants. Enfin, je trouve ça d'un cynisme fou. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est d'un cynisme fou, mais bon, à son habitude. Il a été donc réélu pour 6 années supplémentaires. Et il y a aussi Kiev, donc, et Vladimir Zelensky qui ont profité de cette élection pour prendre la parole et critiquer la Russie et le Kremlin. Au regard de ces résultats, donc le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré que son homologue russe était un homme ivre de pouvoir qui veut régner éternellement sur la Russie. Bah, effectivement, ce contexte de grande propagande, de marché de communication sur l'élection russe n'engage rien de bon en réalité pour l'Ukraine, car il profite de cette élection, finalement, Vladimir Poutine, pour encore plus créer de l'énergie dans ses troupes et faire des prises de parole sur le contexte de cette guerre. Mais aussi, faut pas oublier de parler des nombreuses finalement personnes qui ont essayé de se révolter face à ce pouvoir hégémonique de Poutine sur la Russie et antidémocratique. Il y a de nombreux opposants à Vladimir Poutine qui ont été appelés à voter en masse à 12h pour n'importe quel autre candidat que lui. Pour montrer que l'opposition existe. Il y a des dégradations et des attaques qui ont eu lieu dans plusieurs bureaux de vote, notamment deux bureaux de vote qui ont été incendiés lors du premier jour du scrutin. Et donc, il y a eu de nombreuses interpellations, perquisitions et personnes emprisonnées face à ces révoltes et ces rébellions. Il y a eu notamment des vagues de révoltes, notamment en soutien à Navalny. On sait que la femme, je vois que Marc-Antoine hoche la tête, il aura peut-être quelque chose à nous dire là-dessus, mais je sais que la femme de Navalny déclarait reprendre le combat et la lutte de son mari, ce qui a aussi créé donc une énergie de révolte dans les oreilles et les bouches de nombreux opposants à Vladimir Poutine. Mais effectivement, comme l'habitude avec le pouvoir du Kremlin, Vladimir Poutine a donc emprisonné et opprimé donc les personnes qui se révoltaient face à son pouvoir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser sur une courte page musicale et je vais continuer ma chronique dans une minute et je vais pouvoir laisser aussi la parole à Noémie et Marc-Antoine pour parler de ce sujet international. On se retrouve dans une minute. Bon, je vous ai dit une courte page musicale, mais bon, vous avez eu le droit à une page de pub à la place. Mais ce que je disais, voilà, aussi, c'est il y a aussi le contexte des déclarations de l'Europe sur la Russie et le contexte donc russo-ukrainien. Ça fait plusieurs mois d'ailleurs que l'Ukraine est en souffrance par rapport à ce conflit. Il y a la ville d'Addik. Tidka qui est tombée aux mains des Russes, qui était la première grande victoire de taille de la Russie. Il y a la prise de Bakhmut qui était aussi une autre victoire de la Russie, presque deux ans après l'invasion à grande échelle de la Russie sur l'Ukraine. Il y a face à ces escalades, il y a le président notamment Emmanuel Macron en France qui a affirmé plusieurs fois qu'il pourrait opérer en Russie, envoyer des troupes en Russie. Il l'a d'ailleurs réaffirmé il y a deux jours, je le cite, je réaffirme que des opérations en Ukraine contre la Russie seraient peut-être nécessaires, ce qu'a affirmé Emmanuel Macron dans un entretien ce dimanche. Et il y a eu plusieurs cyberattaques qui ont eu lieu de la part de la Russie sur la France après ces déclarations là d'Emmanuel Macron. Donc on voit que les déclarations de Vladimir Poutine s'intensifient suite à ces élections. On voit qu'il va pouvoir être au pouvoir 6 ans de plus et même il a modifié la constitution en réalité pour être au pouvoir jusqu'en 2036. L'Ukraine est en souffrance, même si je sais que la Russie dans pas mal de points recule et a de plus en plus de complications parce que les pays de l'Occident aident militairement l'Ukraine et déclarent même qu'ils pourraient les aider au-delà de ça. Donc on a tout un contexte diplomatique et géopolitique complexe qui entoure cette élection qui était aussi un enjeu de communication et de propagande guerrière. Je vais vous laisser la parole sur ce sujet qui est...
Moi puis Marc-Antoine, on n'arrête pas de se tirer la balle qui commence. Ouais. Ben moi, c'est plus... J'aimerais ça rebondir un petit peu là, justement sur la parenthèse que tu as faite sur le fait que Poutine a modifié la Constitution. Moi, je me souviens, là, j'avais fait un travail là-dessus dans le cadre d'un des cours en politique. Là. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a utilisé, dans le fond, là, comme méthode? C'est que je crois qu'il a raccourci les mandats, à ma mémoire. Il a raccourci les mandats, mais dans le fond, lui, il avait atteint le nombre maximal de mandats auquel il pouvait, il avait droit. Puis, dans le fond, il a modifié la Constitution. Excusez, je reprends.
Pas de problème.
Dans le fond, il a modifié justement le nombre de mandats auxquels un président pouvait, pouvait remplir, mais de telle sorte à ce que lui pouvait remettre son compteur à zéro, ce qui lui permettait maintenant de, comme tu disais, là, pouvoir être au pouvoir là, jusqu'en 2036. Fait que c'est vraiment ça la technique qu'il a utilisée, dans le sens que, ah ben moi, tu sais, je fais pas ça pour allonger mon mandat. Il l'a raccourci, mais il a remis son compteur à zéro. Fait que c'est comme vraiment une autre manipulation qu'a fait de la Constitution. Puis tantôt, tu évoquais là, le droit international, notamment. Tu sais, ça, c'est avant justement tous les événements là, avec l'Ukraine. Mais les amendements là, ont renforcé là, la primauté là, de la Constitution russe sur le droit international et ont interdit là, toute action là, en appel pour sous-estimer la grandeur du peuple russe ou discréditer là, les résultats des votes populaires. Là. Fait que, tu sais, ça montre vraiment là, l'intention du président là, russe là, d'imposer là, sa grandeur. Premièrement, par rapport à la communauté internationale, mais également là, au sein du pays, là, de sorte à pouvoir là, régner encore, encore un petit bout. Là. Puis je dis régner, puis je pèse mes mots là, parce que c'est vraiment clairement là, c'est la dictature.
Oui, ouais, pas dans la, pas dans les, comment on appelle ça, pas dans la, dans la, dans le, dans le mode de production. Et dans l'utilisation des moyens de production, mais dans l'appareil politique, ouais. C'est le retour des tsars en Russie, quoi.
Exact.
Et c'est ça, il y a un côté un peu tsariste, comme tu dis, un règne hégémonique sur le pouvoir. Ça, il a réduit ses mandats, mais il a augmenté le nombre de mandats possibles, donc il a presque rendu illimité, comme le disait.
Mais la problématique, c'est vraiment le fait qu'il a remis son compteur à zéro.
Ouais, c'est ça aussi, ouais.
Fait que c'est ça qui m'avait abasourdi. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je commençais mes études en politique. Fait que je comprenais pas nécessairement vraiment tout ce qui se passait là-bas, là. Surtout que, avant moi, l'international, c'était vraiment pas ma branche, là. C'était rendu autre chose. Mais, écoute, ça m'avait sidéré.
En plus, il joue sur le contexte de la guerre. Il justifie son pouvoir par rapport à la guerre. Il justifie la guerre en partie par rapport à son pouvoir, qui veut protéger l'hégémonie russe par rapport à l'OTAN et par rapport à l'Ukraine. Donc, on voit qu'il y a une justification des événements et du contexte actuel. Marc-Antoine, on avait un petit peu parlé aussi au début de l'émission, mais justement des tensions entre l'Europe, la Russie, des prises de position des États-Unis par rapport à tout ça. Enfin, je vais te laisser la parole si tu avais des choses à dire sur ces points-là.
Ben, je vais juste rebondir sur les déclarations de Macron que tu as parlé, ouais. Qu'il fait un peu cavalier seul, si on peut dire. Il y a juste les Pays-Bas qui soutiennent ses propos. C'est qu'en même temps, il y a aussi Macron a comme eu un changement de discours un peu. Là, dernièrement, le discours est beaucoup plus axé sur l'aspect militaire.
Effectivement. Effectivement, il y a un discours beaucoup plus militaire. On parle d'envoyer des troupes sur les territoires russes. Il y a un média d'ailleurs, un média russe qui ça a été relayé. Il y a un média russe qui parlait que des troupes françaises étaient déjà sur le sol russe. Donc encore une fois, là, il va falloir faire très attention avec l'information, parce qu'on voit qu'on est sur une guerre de l'information. C'est toujours ça hein, pendant les guerres, mais la Russie aussi qui a fait des cyberattaques hein, sur le en France, c'est ce qu'aurait déclaré le gouvernement. Il y aurait plusieurs piratages, bugs informatiques à des, sur des sites de l'État. Donc on voit que c'est une guerre de l'information, une guerre des cyberattaques pour l'instant. On est sur quelque chose de subtil, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de sous-jacent. Mais ça peut rester inquiétant en termes de diplomatie. Il y a un grand débat en ce moment en France, un très grand débat intellectuel entre des intellectuels français, entre les députés, concernant les prises de parole d'Emmanuel Macron. Il y a eu un vote d'ailleurs de motion, il y a eu une commission à l'Assemblée sur est-ce qu'on soutient finalement la prise de parole et l'envoi de troupes en Russie. Ou est-ce qu'on est contre la prise de parole de Macron et l'envoi de troupes en Russie? Ça crée un grand débat en France sur cette question-là. On voit qu'il y a des partis comme notamment la France Insoumise et le Parti communiste le Parti communiste français, des partis qui se situent, donc de Mélenchon et de Fabien Roussel, des partis qui se situent à gauche, qui eux justement étaient contre l'envoi de troupes sur le territoire russe et déclarent vouloir être non alignés et ne pas être dans la guerre avec la Russie. Le Front National, qui est un parti d'extrême droite en France et qui a plusieurs liens avec le pouvoir russe, des liens qui ont été prouvés. D'ailleurs, la campagne du Front National aurait été en partie financée par des instances russes. Eux, pareil, eux ont des prises de parole plus tendre, on va dire, à l'égard de la Russie. Ils veulent surtout pas de confrontation avec le pouvoir russe. Et au-delà d'être non alignés, ils parlent ils veulent une discussion diplomatique en règle avec Vladimir Poutine. Tandis que la droite traditionnelle et le parti d'Emmanuel Macron, eux veulent l'envoi de troupes et augmenter l'aide de la France avec l'Ukraine. Comme tu le dis, c'est pas, il y a pas un consensus international. Il y a pas mal de pays d'Europe justement qui étaient plutôt du côté des deux parties dont j'ai parlé au début, qui ne voulaient pas envoyer des troupes en Russie car ça pourrait créer un contexte diplomatique défavorable à l'Europe et à la population européenne elle-même.
Mais comme tu dis, il y a pas de consensus international. Il y a pas aussi de consensus auprès de sa population. Il y a un sondage qui est sorti que le discours un plus militaire de Macron, 76% de la population française avait une opinion défavorable.
Ben effectivement, oui, c'est ça. Il y a la grande majorité de la population française avait un opinion défavorable avec la prise de parole d'Emmanuel Macron sur une potentielle intervention finalement sur le territoire russe. On voit aussi d'ailleurs que cette prise de parole a été déclarée avant une commission parlementaire ou avant une commission au Sénat ou avec la population. Donc c'est intéressant. Effectivement, il y a eu un choc dans l'opinion publique. Ouais, c'est le mot que je cherchais. On voit un petit peu, ouais, que Macron effectivement a fait cavalier seul. Comme je dis, c'est 76% des Français qui sont en désaccord avec l'envoi potentiel de troupes. D'ailleurs, selon les sondages, c'est des chiffres qui vont plus vers les 80% même. Et je crois que c'est 82% qui étaient en désaccord avec les déclarations d'Emmanuel Macron. Donc ouais, c'est un contexte qui est intéressant. Il y a un Emmanuel Macron qui fait cavalier seul, ouais, qui est en désaccord avec l'Europe, qui est en désaccord avec sa population. Bon, ça, en désaccord avec sa population, il l'est. Et donc, c'était Maud Audet pour Demande-moi. On se retrouve pour une chronique qui va nous être présentée par Noémie sur les conséquences de l'avortement en Louisiane.
Ouais, de l'interdiction, là, en fait. Là, vous savez que c'est un sujet que je trouve important là, qu'on parle. Là. Donc, il y a eu un rapport là, récemment publié là, qui met en lumière les effets dévastateurs là, des interdictions d'avortement en Louisiane sur les femmes enceintes et aussi les praticiens là, de la santé. Ce rapport qui a été mené là, par quatre organisations, là, dont le Centre pour les droits reproductifs et Physicians for Human Rights. Cette enquête révèle là, un tableau alarmant de la situation dans cet État conservateur conservateur du sud des États-Unis, devenu l'un des plus restrictifs en matière d'interruption volontaire de grossesse, IVG, comme on appelle souvent, depuis l'annulation là, de la Cour suprême des États-Unis, de la garantie fédérale à l'IVG à l'été 2022 dans l'affaire Dobbs. La Louisiane là, a presque entièrement interdit les avortements. Cette situation pèse lourdement sur les femmes enceintes là, et les praticiens de la santé, comme je disais juste avant, comme le souligne le rapport. En raison d'exceptions là, étroites et mal définies là, qui génèrent là, peur et confusion, c'est souvent l'objectif là, caché derrière certaines législations des États là, qui mettent un flou volontairement afin justement d'insérer là, ce climat de peur et de tension-là. Les témoignages là, recueillis dans le rapport sont éloquents. Là. Un praticien relate là, le cas d'une patiente là, qui présentait des problèmes cardiaques là, aggravés pour sa grossesse, là, qui a dû attendre plusieurs traitements avant que l'option d'un avortement ne soit même envisagée, là, mettant ainsi en danger là, sa santé de manière très grave, là, même voire aller jusqu'à remettre en question là, sa vie. Une autre conséquence alarmante là, est le refus d'examiner certaines femmes là, enceintes pendant les 12 premières semaines de leur grossesse, là, période où les fausses couches sont les plus fréquentes. Ce refus est motivé là, par la crainte des établissements de devoir gérer des complications là, nécessitant un avortement justement et de se retrouver là, confronté à des poursuites judiciaires. De plus, dans certains cas là, de complications potentiellement mortelles, les praticiens ont recours à des césariennes au lieu d'un avortement classique afin d'éviter là, toute suspicion. Donc, vous imaginez là, un petit peu les conséquences sur la femme, puis aussi là, peut-être au niveau des complications en ce qui concerne une césarienne là, faite qui n'est pas appropriée pour la situation, en fait. Là. Ces pratiques médicales là, sont effrayantes, mais aussi là, témoignent des pressions et des risques auxquels sont confrontés là, les médecins. Là, ces praticiens en Louisiane là, encourent des sanctions jusqu'à 10 à 15 ans là, de prison et même jusqu'à 100 000 jusqu'à 200 000 $ d'amende. Là, situation qui entraîne nécessairement un climat là, d'intimidation et une menace là, qui pousse même de nombreux cliniciens là, à envisager quitter l'État. Face à cette réalité inquiétante, les recommandations du rapport là, exhortent les autorités de Louisiane à remplir les obligations en matière de droits humains en abrogeant là, les interdictions d'avortement dans l'État. Ces restrictions, souligne-t-on, là, sont non seulement inhumaines, mais aussi intenable, menaçant la santé et les droits des femmes ainsi que l'intégrité éthique là, des professionnels de santé. Fait que c'est vraiment là, un gros cercle vicieux là, qui se passe souvent là, au niveau justement des législations que les États décident d'adopter parce que pour nos auditeurs qui seraient moins familiers avec ce qui s'est passé là, avec le renversement de Roe v. Wade là, dans l'affaire Dobbs que j'évoque depuis tantôt, c'est que dans Roe v. Wade, il y avait justement la Cour suprême avait interprété le droit à l'avortement comme faisant partie du droit à la vie privée. C'est ça, vie privée? Oui, je pense que c'est ça, vie privée. Puis, propriété privée, en tout cas, ça revient au même, mais bref, il l'avait protégé sous l'un des droits là, de la Constitution américaine, mais Dobbs là, est venu renverser ça. Puis, de sorte à ce que, justement, les États puissent mettre en place la législation qui leur convenait le mieux, souvent, justement, là, des États un petit peu plus conservateurs. Là. On peut penser notamment au sud des États-Unis qui vont adopter des législations rendant difficile là, l'accès à l'avortement ou encore, là, comme le cas de la Louisiane, où est-ce que Les législations sont tellement floues qu'on n'ose pas là, justement être confronté à des poursuites judiciaires qui sont pas claires là, par rapport au cas d'une telle pratique. Là. Fait que c'est une situation qui est, ma foi, alarmante, là, comme j'ai pu le répéter à de nombreuses fois. Puis pour moi, c'est quelque chose qui me sidère à chaque fois. Je peux pas croire que on prenait pour acquis que c'était un droit pour les femmes, puis on vient le retirer. J'ai tendance à penser là, que c'est beaucoup lié aussi avec toute la polarisation là, de la politique là, aux États-Unis, puis qui entache notamment l'instance judiciaire là, qui devrait être complètement indépendante et dépourvue de toute idéologie teintée, là, soit tirant un peu plus vers la droite ou la gauche. Là, on relie souvent ça là, aux États-Unis, notamment aux républicains puis aux démocrates. Fait que j'ai hâte de voir, là, tu sais, par rapport justement à des enquêtes qui sont faites, est-ce qu'il va y avoir éventuellement un autre revirement de situation, mais toute la situation met en lumière là, le fait que des droits importants peuvent être remis en cause pour des questions politiques, puis pour moi, c'est inconsidérable. Je sais pas, les gars, vous, je sais que...
Ouais. Mais oui, c'est clair, c'est une montée de l'extrême droite aux États-Unis, ça s'inscrit dans cette politique-là. Mais moi, je veux vraiment parler aussi sur le plan politique, philosophique. Je trouve ça d'une absurdité, mais dingue. Et c'est là que tu vois que... Parce que la plupart des gens là, qui sont contre l'avortement, c'est des chrétiens intégristes, des chrétiens extrémistes. Et souvent, leur seul argument contre l'avortement, c'est... c'est pour la tradition. Il y a juste ça, c'est juste pour des questions de tradition et parce que pour eux, le fœtus, c'est une vie humaine et donc si t'avortes, tu tues une vie humaine. Ouais, bon bref, c'est débile. Mais sauf que là, dans la chronique que tu viens de nous faire, tu disais que tu nous parlais de femmes dont la vie était en danger.
Oui.
Et donc, si elles accouchaient, ça pouvait avoir un impact sur leur vie.
Exactement.
Et donc, si elles avortent, ça leur permettait de sauver leur vie. Mm-hmm. Donc, je trouve que je vais essayer d'être poli, mais l'absurdité de du propos de ces chrétiens intégristes, de ces extrémistes, de ces politiques d'extrême droite, qui est de dire on écoute l'avortement pour sauver des fœtus. Sauf que vous êtes prêt à tuer des femmes pour sauver des fœtus, ça n'a aucun sens, je trouve. Et encore une fois, moi je suis pour l'avortement, pour qu'absolument toutes les femmes puissent avorter pour n'importe quelle raison que ce soit. Je suis pour un avortement qui est complètement libre. Mais encore ça, c'est-à-dire que là on voit que il y a des femmes qui peuvent mourir. Si elles n'avortent pas, ils sont prêts à laisser mourir ces femmes-là. Donc, on est dans quelque chose qui est politiquement et qui est sur le plan humain complètement grave, moi, je trouve. Et le fait qu'ils aient... que maintenant, avec ce gouvernement-là, les faits que les juges et la politique de Trump aient laissé, finalement, le pouvoir aux États individuellement de choisir si oui ou non l'avortement serait légal ou illégal, c'est ce qui a mené à ce genre de dérives politiciennes, quoi. Et humaniste. Enfin, on est dans quelque chose d'inhumain pour moi.
Ça risque d'être un enjeu aussi pour la campagne électorale dans l'État de l'Union au début mars. Biden a promis un retour de la constitutionnalité de l'avortement. Dans le fond, il va ramener l'enjeu à la Cour suprême s'il est réélu.
Ouais, mais tu sais, reste à voir tout ça. Là, dans un sens, c'est que si le jugement est tombé, puis les juges, ils sont là longtemps. Là.
Ouais.
Fait que,
ils sont à vie, normalement.
Oui, ben, c'est pas des mandats.
Ouais, c'est ça. Ben, ils sont à vie, t'sais, à moins qu'ils, justement, ils soient mis de leur fonction pour X ou Y raison. Là. Mais t'sais, c'est très rare qu'on voit ce genre de cas-là. Fait que quand bien même qu'ils ramènent devant les tribunaux, est-ce qu'on peut s'attendre à un revirement de situation? Pas nécessairement. On va peut-être avoir droit à une nouvelle interprétation qui peut peut-être encore plus mettre en péril justement toute la législation par rapport à ça. Puis, écoute, Regarde, s'ils veulent faire leurs élections, si Biden veut faire son élection, miser justement sur le fait qu'il veut ramener ça devant la Cour suprême, pour ceux qui sont moins familiers avec tout le système judiciaire, c'est de prendre conscience aussi le fait que quand bien même que tu le ramènes, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir revirement de situation. Là. Personne ne s'attendait à ce que Roe v. Wade soit renversé. Mais bon.
Mais c'est là qu'en plus, comme on en parlait l'autre fois, il y a l'interdiction légale de l'avortement, mais il y a aussi les agressions et les limites sur l'accessibilité. On voit qu'ils essayent de rendre inaccessible
mais
aussi
c'est
l'avortement.
Mais c'est ça. Souvent, c'est comme, nous, on le rend pas, ouais. Et on le rend pas, on l'interdit pas.
Ouais.
Mais en soi, c'est l'équivalent parce qu'ils rendent tellement ça compliqué. Puis le cas que je disais tantôt avec la Louisiane, c'est qu'ils permettent des exceptions, telles par exemple que le cas où est-ce que la vie de la femme est remise en est mise en péril, mais ces exceptions sont tellement étroites et mal définies que les praticiens veulent pas se risquer à justement faire une telle intervention. Parce qu'il y a en cours là, des sanctions, là, ma foi. Et on parlait tantôt de 10 à 15 ans, de 100 000 à 200 000 $. Puis, bref, c'est ça souvent. C'est une manipulation aussi législative du fait que, nous, on ne l'interdit pas. Tu sais, ça passe bien du fait que non, on ne l'interdit pas. Mais en soi, quand tu regardes ça de plus près, en pratique, c'est l'équivalent.
Complètement. C'est pour ça que la France a constitutionnalisé le droit à l'avortement, mais l'enjeu, c'est aussi de le rendre accessible à tous, mm-hmm. même dans des zones rurales, même dans des zones où il n'est pas accessible. Et puis, c'est de changer d'imposer aussi que les médecins le fassent. Il y a des médecins qui refusent de le faire. Donc voilà, il y a la question de l'accessibilité à l'avortement qui est primordiale. Merci Noémie pour ta chronique, c'était vraiment intéressant. C'est un sujet qui est primordial en ce moment.
Ça en parle souvent, mais je trouve.
C'est plus que nécessaire de le traiter. Je vous laisse sur une courte page musicale et on se retrouve dans un instant pour une entrevue avec Isabelle Maréchal, qui est animatrice de la série Des idées pour le Québec. À tout de suite.